et vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà de
gauche.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture et société. Qui dit mois de juin dit grande compétition et cette année, place à la Coupe du Monde de football chez nous, en France. Après Griezmann, Pogba et Mbappé l'an dernier, c'est au tour de Renard, Henry et Le Sommer de tout faire pour ramener la Coupe à la maison, comme dirait notre ami VG Dream. Alors, pour parler de ce mondial qu'on attend tous, j'ai avec moi les meilleures expertes et le meilleur expert de la planète foot, Émilie Ross, autoproclamée capitaine de meuf de foot. Comment ça va, Émilie ?
Mais ça va bien, ravie d'être là.
Et ravie que tu sois là aussi. Dans ta team, Charlotte Prato, qui est aussi programmatrice des invités chez Bein Sport. Comment ça va, Charlotte ?
Ça va super, merci.
Top.
Génial.
Et mon fidèle acolyte, Boris Radojczyk, je le dis bien là ?
Toujours pas.
Toujours pas ?
Mais non, mais peut-être qu'un jour tu y arriveras, non, mais pas aujourd'hui.
J'étais persuadé que c'était bon en plus là.
Bon. Je suis bien content que tu sois persuadé, mais c'est pas ça.
Bon, c'est pas grave. Comment vas-tu ?
Bah, ça va bien, écoute, je suis ravi de faire partie de l'équipe d'Emilie et de Charlotte, en plus de faire partie de ton équipe.
Oui, très belle équipe, très très belle équipe, pour parler du Mondial féminin qui commence le vendredi 7 juin. Alors on va parler pêle-mêle de un peu du football féminin en France, l'état de du football féminin en France, de la compétition et du groupe France, le groupe qui nous intéresse, les chances des Bleus d'aller loin dans la compétition, on l'espère en tout cas. Alors juste pour donner comme ça quelques chiffres pour que les auditeurs et les auditrices aient un peu des repères sur le football féminin en France. En 2018, il compte 170 000 licenciés. Donc, c'est une augmentation de 15%. Je tiens d'ailleurs à remercier Boris qui a préparé ses fiches. Sans lui, ça aurait été un peu compliqué.
Je t'aime, Abdallah.
Voilà, donc la feuille des tables à peu près sur 250 000 licenciés après la Coupe du Monde.
C'est le souhait qu'ils ont exprimé, en tout cas, d'arriver à 250 000 licenciés après la Coupe du Monde. Donc, de profiter de l'effet Coupe du Monde pour augmenter sensiblement, enfin très sensiblement, le nombre de licenciés.
Ça fait une belle augmentation. Là.
Ça fait une belle augmentation. C'est peut-être un
mais
peu optimiste.
Mais ça se tient. Non, ça se tient. Ça se tient. J'y crois, moi.
Tu crois, Emilie ?
On prend les paris ? 80 000. On se revoit le 8 juillet.
Hey, ça va faire du monde pour l'équipe de meufs de foot. Là, elle va être obligée d'ouvrir des sections U10, U12.
Elle va
pas
mieux. Tant mieux.
Bah, ce serait bien en plus si après le succès des garçons, les filles aussi arrivent à drainer de plus en plus de licenciés.
Et tu vas voir qu'il n'y aura pas que des filles.
Ah, mais je pense aussi.
Je pense que ça va vraiment. Parce que là, la Coupe du Monde, par exemple, masculine, a réveillé justement des licenciés aussi féminines. Donc je pense que le mix est totalement possible.
Complètement, complètement. Et avec ce nombre, pardon, de 250 000, on serait à peu près aux alentours du nombre de licenciés pour le basket féminin. Et on dépasserait celui des licenciés pour le handball. Ce qui est quand même une belle performance. En tout cas, on l'espère. Et toujours dans les facts pour un peu placer le football féminin. Canal+ diffuse tous les matchs
D1
et de Ligue des Champions. Les matchs de l'équipe de France sont en clair cette année et c'est très très bien d'ailleurs qu'ils soient en clair et pas sur une chaîne à péage, comme si l'équipe de France serait bien.
Et les audiences, elles ont été ouf.
Ouais, j'ai vu Charlotte qui m'a regardé en mode qu'est-ce qu'il dit lui.
Ah ouais, n'oublions pas le titre de Charlotte. De dire que la Ligue des Champions, le PSG, c'est sur Bein Sport.
Exactement.
Ah oui, effectivement.
C'est pour ça que je...
Merci d'accord. de préciser, parce merci que Abdallah, il oublie tout.
Là où mes chefs écoutent, on sait jamais.
Et tu disais, Émilie, du coup, sur les audiences ?
Les audiences, elles ont été assez ouf, là, sur les matchs amicaux.
1,2 million, hein, sur France-Chine, je crois.
Ouais, ouais, ouais.
C'est pas mal du tout.
En plus de nous, c'est-à-dire que... Ah, on était en direct...
Mais oui, c'est ça, plus les gens au stade.
Charlotte, Émilie, moi-même.
À Créteil, mon frère.
Une vraie expérience.
Point de lac représente.
Fidèle supporter. Les fidèles supporters. Et juste rappeler que tous les matchs de la Coupe du Monde seront diffusés sur Canal+, et ceux de l'équipe de France, en clair, sur TF1, qui diffusera sur son groupe, d'ailleurs, d'autres matchs de la compétition sur TF1, et il me semble aussi TMC. Donc voilà, pour faire un petit topo un peu introductif. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, sur la Coupe du Monde en tant que telle. Juste rappeler un peu le parcours des Bleus en 2015, Boris.
Alors malheureusement, on avait été sortis en quart. On avait fait moins bien qu'en 2011, puisqu'on avait fait quatrième en 2011, où ça a été une petite déception, parce qu'on avait perdu contre la Suède, il me semble, sur le match pour la troisième place. Si vous en souvenez, les filles.
Non. Moi, j'ai commencé le foot féminin en 2015. C'est le Canada qui m'a réveillée. Donc avant,
alors, ouais, il me semble que c'était ça et qu'on s'était fait sortir par le Japon donc en demi.
Futur vainqueur en 2011.
Exactement. Donc c'était finalement moins bien en 2015, mais ça a en tout cas eu le mérite de lancer une génération qu'on retrouve en grande partie aujourd'hui, parce que.
Bah aujourd'hui, bon, les consultantes médias. C'est en tout cas la QV 2015. Hein.
Voilà, et on a le reste de l'équipe aussi, où on a une grande partie des titulaires de 2015 qu'on retrouve en 2019, titulaires dans cette équipe, et des présentes aussi en 2015 qui n'avaient pas forcément beaucoup joué. Alors, je pense surtout à Amel Majri, qui avait joué que le quart de finale, mais qui est titulaire indiscutable aujourd'hui, ou à Gry Djembok, qui avait pas du tout joué à la Coupe du Monde 2015, parce qu'elle était derrière Laura George et derrière Sabrina Delannoy dans la hiérarchie. Donc, et puis, il y avait déjà Wendy Renard, puisque je rappelle que c'était Wendy Renard et donc Laura George en défense centrale. Et donc, on a quand même des joueuses qui, pour celles qui n'ont pas joué, ont eu une expérience, en tout cas, de la Coupe du Monde... au moins
elles savent que c'est important.
Voilà.
Et puis surtout, t'as eu un match contre l'Allemagne, même si on perd au final. C'est la première fois que la France, enfin, fait autant le poids face à une très grosse nation. Ou sincèrement,
elle a fait une très grosse première mi-temps.
Ouais, on perd au penalty, on mène au score, on se fait reprendre, on perd au penalty.
À la 80 et quelques.
Le truc dégueulasse.
Et je pense sincèrement, si tu rejoues ce match 100 fois, tu vas le gagner 95 fois.
Mais est-ce qu'on peut pas dire qu'un match comme ça, ça peut être aussi fondateur dans une épopée mondiale? C'est-à-dire perdre
t'as
de
une
manière
amertume.
Aussi...
Tu gardes l'amertume. Normalement, tu gardes l'amertume et ça te motive.
Et moi, ça me fait penser, tu vois, à la Coupe du Monde 2014 où la France perd contre l'Allemagne en quart de finale 1-0 dans un match un peu insipide avec un but de Hummels comme ça sur un corner ou qu'il dira, je sais plus. Enfin bon, on perd et puis on a des regrets. On se dit bon, ils n'étaient pas si au-dessus.
Ouais,
finalement,
c'est
eux qui gagnent la Coupe du Monde en 2014. Et là, on a un truc un peu comme ça avec en 2015 les filles se font sortir par l'Allemagne alors qu'elles ont mené 1-0 pendant une grosse partie du match. Là, on arrive avec une équipe un peu déterre et surtout avec cette idée qu'on peut faire mieux. Donc, on surfe un peu sur cette vague-là depuis 2015. L'Euro...
Entre-temps, 2016,
ouais,
2017,
c'est compliqué. Ouais, on a pas eu les résultats escomptés.
Mais c'est tout ce qui manque à cette équipe de France, là. Il nous faut la perf qui fera la différence. Aujourd'hui, elles n'ont rien gagné. Et je pense que tout ça se ressent dès l'instant que tu auras du scoring et de la bonne perf. Par contre, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on attend du coup d'aller jusqu'au bout.
Est-ce que ça peut être un match de poule ou c'est forcément un match à élimination directe pour avoir une perche? Pourquoi je dis pour avoir une perche, pour avoir une perf? Voilà.
Parce que tu veux me tendre la perche.
La perche, voilà.
Puis t'es pote avec Renaud Lavillény, non? C'est pas ça.
Exactement.
Ça semblait, je t'ai vu. En vacances avec lui.
Non, je vais être un peu dur, mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout si tu veux marquer les esprits, t'as pas le choix.
Après, ce qui est intéressant aussi avec cette génération-là, dans les jeunes, là, je parle, c'est qu'on a des filles qui ont, elles, l'expérience de la victoire, parce qu'elles sont championnes du monde U17. Parce que Gridge, Delphine, je suis pas sûr, Cascarino. Mais Gridge, elle gagne le mondial U17. Et elles sont vice-championnes du monde U20. Là, en l'occurrence, il y a Cascarino et Mbok. Donc, là, on a une génération quand même qui a un peu cette culture de la gagne. Donc, on installe un truc. Moi, j'ai envie d'y croire, hein, parce que encore une fois, je trouve que c'est le bon équilibre entre finalement les résultats au niveau des équipes. Alors là, je parle de Lyon parce que ça performe énormément depuis 4 saisons. On a 4 Ligues des Champions en France avec l'Olympique Lyonnais.
Elles cumulent et elles tirent le foot féminin, ça fait du bien.
Et à côté de ça, elles ont quand même de l'expérience au niveau de l'équipe de France parce que chez les jeunes, ça avait performé. Et à côté de ça, tu as des Wendy Renard qui sont des cadres maintenant indéboulonnables qui ont l'expérience du haut niveau, Sarah dans les buts.
Tu as une vraie mixité dans cette équipe, tant dans les âges, dans les expériences, etc. Et pour moi, c'est... c'est très fort. Après, enfin, moi, je l'ai vu jusqu'au bout, quoi. Quand tu les vois là rayonner, etc. Et ce qui est très, je vais dire dommage entre guillemets, c'est que comme cette année, c'est à la maison, la pression, elle est fois 1000 en fait. Mais et je leur souhaite d'aller jusqu'au bout. Bon, on va être avec elles à donf, hein. Mais
en tout cas, on a beaucoup plus visible aussi.
On a tous les ingrédients là. Normalement, c'est allez.
Toi, tu crois que c'est négatif d'avoir cette pression là?
Personnellement, oui, mais en même temps, je suis pas joueuse. Tu vois, mais moi, je me dis.
Et pourtant, c'est toujours un avantage aussi de jouer à domicile. On sait que dans le sport, en général, jouer à domicile, c'est un avantage. Donc,
ouais, mais t'imagines, enfin, là, tous les médias, et tant mieux en même temps, parce que oui. Là, tout le monde s'intéresse à elle, etc. Mais du coup, t'as un excès d'intérêt qui fait que ça peut te chambouler, en fait, tu vois. Après,
ça peut te chambouler, mais ça peut aussi, tu vois, décupler des forces que t'as pas idée, parce qu'elles ont jamais vécu ça. Donc, tu sais pas, en fait,
c'est
comment
elles
vont
agir. Soit ça te booste, soit ça peut un peu te perturber, entre guillemets. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que dans toutes leurs déclats, là, jusqu'à présent, c'est vraiment, elles gardent le sportif, quoi. Bim, 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 et tu les vois. Enfin, dans les entraînements, là, elles se sont mangées du sportif, là, ces dernières semaines.
Donc, ouais, et puis, toute la pression, et justement, ce qu'on parlait, l'engouement des médias, etc., ça fait aussi 6 mois que tout le monde leur en parle. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'elles commencent à être habituées à tout ça. Et aussi, c'est la première fois qu'en équipe de France, elles ont fait appel à un coach mental. Et je pense que c'est aussi un truc super important qu'elles n'avaient peut-être pas forcément avant. C'est peut-être ce qui a fait défaut à l'équipe de France en 2015 ou en 2011 ou les dernières années. Et je pense que d'être préparé aussi, peut-être psychologiquement à tout ça. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un moment, sincèrement, quand elles vont arriver au Parc des Princes vendredi, qu'elles vont entendre 45 000 personnes crier, chanter la Marseillaise.
Déjà, j'ai mal au ventre pour elles, moi. Même moi, je me dis, je vais avoir mal au vide.
Je pense que ça va faire leur faire un petit truc. Même nous, en tribune, je pense qu'on va avoir quelque chose.
Mais on va chialer, les gars, je vous le dis, moi.
Alors, on va détailler vraiment l'effectif de l'équipe de France dans la troisième partie de cet épisode. Mais. Parler juste aussi des autres équipes en place. Quelles sont justement les équipes favorites, celles qui peuvent embêter nos Bleus? Alors, je pense évidemment aux tenantes du titre, les Américaines. Est-ce que cette année, elles ont leur chance pour aller au bout et empêcher malheureusement nos Bleus de ramener la Coupe à la maison?
De toute façon, les Américaines, elles sont quasiment toujours... Enfin, elles arrivent assez loin. Mmh. Je pense qu'elles avaient été vachement frustrées d'être éliminées aux Jeux Olympiques en 2016. Et donc, ouais, c'est des joueuses qui sont habituées à haut niveau. Elles ont l'expérience des grandes compétitions. Elles ont l'expérience de la victoire. C'est ce qui manque aussi parfois chez nous à nos joueuses. C'est-à-dire que même si on a des joueuses qui gagnent en club, qui sont dans le meilleur club du monde, en équipe de France, on n'a jamais rien gagné. Donc, elles n'ont jamais trouvé cette alchimie qui
et de gagner ensemble.
Voilà. Ouais. Alors que les Américaines, au contraire, elles sont habituées à gagner ensemble. Elles ont cette culture de la gagne et de la victoire. Donc, je pense qu'elles seront forcément là à la fin. Voilà. Après, il y a des joueuses comme Alex Morgan qui, en plus, ont fait un petit passage en France. Elles connaissent un petit peu l'environnement.
Rapinoe également.
Elles ont envie de montrer qu'elles sont là.
Pour être un peu optimiste, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, à force de gagner tout le temps, à force de marcher sur le foot mondial, il n'y a pas une espèce de lassitude qui peut s'installer. Enfin, c'est ce qui arrive toujours aux grandes équipes, c'est qu'au bout d'un moment, bah, ça s'écroule. Est-ce que ça ne peut pas s'écrouler pour elles cette année?
Souhaitons-le. Plus de temps.
Alors, qui veut s'exprimer au premier là?
Moi, je pense qu'il y a juste un truc à nuancer par rapport à tout ça. Malheureusement, les États-Unis, quand ils ont la culture de la gagne au niveau des sports co, il y a un truc, c'est un truc qui dégage. Moi, l'équipe américaine, elle me fait penser à l'équipe américaine de basket. Tu vois, est-ce que tu t'es déjà dit sur des JO, une équipe de basket, genre elle va prendre le truc à la légère quand ils viennent avec leur grosse équipe? Généralement, tu vois, ils viennent des terres. Ils sont pas genre lassés ou je sais pas quoi. Ils viennent pour montrer USA, c'est nous, nanana. Ils ont c'est en eux, tu vois. Ils ont cette culture de la gagne et de penser qu'ils sont les meilleurs. Et je trouve qu'ils le dégagent sur le terrain et elles le dégagent. C'est Amel qui en parlait il y a pas très longtemps qui disait que les États-Unis, elles ont un truc où elles se la racontent un peu, mais dans le bon sens du terme.
Tu vois, américaine,
c'est,
quoi.
C'est pas, c'est une façon d'intimider son adversaire aussi.
Exactement. Et que du coup, ça marche. Quand tu les regardes, tu dis, waouh, elles dégagent quand même un truc. Et peut-être qu'on devrait, enfin, tu vois, tout simplement, on devrait s'en inspirer parce qu'on a les qualités pour se la raconter aussi. Hein. Donc, les Américaines, faut pas les sous-estimer. Et moi, je crois pas trop au truc de la lassitude et je rejoins Charlotte sur les JO, tu vois, ça reste, à mon avis, tu vois, quand elles ont un petit faux pas.
Je pense qu'elles sont vexées et il faut pas oublier qu'on les a tapées aussi en match amical, là, hiver.
Ça
nous a fait
une
B, entre guillemets. Ouais. Elles étaient entre deux saisons, donc elles n'étaient pas trop préparées physiquement.
Je pense
qu'un match amical, voilà. Je pense qu'elles s'en souviennent aussi et t'as tout ça qui peut être pris en
compte. Alors, si je dis pas de bêtises, si dans un monde parfait, on rencontrerait les Américaines en quart de finale, c'est ça, au Parc des Princes.
Tout à fait.
Ce serait, tu parlais tout à l'heure de match référence, Émilie. Est-ce que ça peut pas être ça, justement, ce match référence? Taper les championnes du monde en titre.
Mais grave. T'arrives en quart et tu tapes les États-Unis. Bah, très bien. Après, ce qui est, on le sait, hein, le foot, c'est injuste et on ne se souviendra pas que de ça. Mmh. Donc, il faudrait aller plus loin. Mais pour moi, déjà, ce serait hyper symbolique, quoi. Hyper symbolique. Et en plus, on les attend là, en fait. On les attend là. Après, moi, je dis attention. Pour moi, il n'y a pas que les États-Unis.
Justement, toi, tu vois qui d'autre ?
L'Allemagne.
Qui nous a sorti il y a 4 ans.
Ouais. Et après, je me dis qu'on peut avoir... Tu sais, il y a toujours une équipe surprise, en fait. Tu sais, ceux qui vont presque au bout du bout, tu sais pas trop comment. Non, mais c'est ça aussi la magie du foot. Et c'est ça, normalement, la magie d'une Coupe du Monde où tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Enfin, rappelez-vous, à l'Euro, enfin, toutes ces compétitions.
Ouais, mais où t'as l'Islande.
T'as l'Islande qui avait surpris. Là, par contre, je peux pas te dire qui. Tu vois, je te lance ça et après, faites-vous plaisir.
Moi, j'ai une ou deux idées, mais.
Mais je pense qu'on pourrait avoir aussi une surprise.
Boris, tu penses à qui?
Bah, les Anglais, faut pas les sous-estimer. Elles ont une très bonne équipe.
Troisième de
la dernière Coupe du Monde. Et puis en club, ça performe pas mal. Hein. Il suffit de voir la demi-finale contre Chelsea, à quel point l'OL a été embêté.
Elles sont lourdes. Il y a
beaucoup de joueuses de Chelsea qui jouent en équipe d'Angleterre. Elles ont sorti le PSG. Elles avaient fait un gros match. Alors c'est pas forcément toujours très spectaculaire. C'est pas forcément toujours très beau, mais c'est très 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 solide.
C'est physique et il y a de la force. En fait, les Anglaises, quand elles jouent, tu sens, c'est dans le duel. Mmh. Et elles ont des épaules, les meufs.
C'est pareil, t'as le mental et la culture de la gagne et de rien lâcher jusqu'au dernier moment. Enfin, on a vu le match à Chelsea où, avec Emily, on était ensemble pour le match retour Chelsea-PSG. Enfin, voilà, on voyait que. Chelsea-Lyon, ouais. Pardon. On voyait qu'elles avaient
rien lâché. On a vu Chelsea-PSG aussi. Hein.
Et rajoute Lucie Bronze, qui, est ce match-là, jouait pour Lyon, qui est là, du coup, jouera pour l'Angleterre. C'est l'arrière-droit de. L'équipe d'Angleterre qui est exceptionnelle. Hein,
je crois qu'ils ont officiellement dit qu'elles venaient pour gagner la Coupe du Monde aussi. Hein. Je crois qu'elles sont troisième au classement FIFA.
C'est
leur
ça.
Coach
c'est ça,
voilà,
troisième,
annoncé
juste devant
la couleur, clairement. Hein.
Donc là, on est sur États-Unis, Allemagne, Angleterre, Japon, le Canada.
Moi, je mets une toute petite pièce sur les Pays-Bas.
Les Pays-Bas,
ouais,
okay.
Parce qu'ils ont
d'Europe.
Ouais, elles sont championnes d'Europe et elles ont un facteur X qui, quand elle est dans un grand jour, elle peut faire basculer un match. C'est la Coupe du Monde, peut y avoir des matchs fermés. Si Lieke Martens, elle décide qu'elle fait la misère, c'est possible qu'elle fasse la misère. Alors, elle a été moins bien cette saison avec le Barça. Donc, je sais pas trop, mais tu m'aurais demandé il y a un an, j'aurais dit attention Lieke Martens. Là,
Elle a fait un gros euro, elle avait été le meilleur joueur, je crois.
Exactement. Donc ça reste quand même un danger pour nous. Et juste pour revenir vite fait sur le quart de finale dont tu parlais tout à l'heure, c'est des matchs comme ça qui te font aller loin. Si la France elle joue pas l'Italie en 98,
ouais.
On parle d'un vice champion du monde, tu vois, Baggio. Enfin c'était des grosses équipes, tu vois. On s'attendait même à se faire taper et finalement on sort le match qu'il faut. Bon, on gagne au péno, mais c'est l'histoire des coupes
c'est
du
le
monde.
Résultat
donc
qui
moi
compte, ouais.
Moi je préfère finalement qu'on joue les États-Unis, l'Allemagne. Qui tu veux, enfin tu vois, des grosses nations plutôt que se dire que on a nos chances et tu prends toujours inconsciemment un peu le match, tu le prends pas à la légère, mais finalement il vaut mieux te dire que tu t'affrontes une montagne et faire ce qu'il faut plutôt que
pour nous, c'est un statut qui sera peut-être plus simple à aborder ces quarts de finale en jouant contre les États-Unis où t'es pas favori. Plutôt que si t'as une petite équipe, entre guillemets, et
si
t'es dans l'obligation de gagner, entre guillemets. Enfin,
et là, je vais citer Gry Djembok qui disait on n'est pas favorite, on n'est pas outsider, on est entre les deux et c'est une place qui nous va
ça.
Bien.
Ouais.
T'as entendu ça? C'est pas de moi, hein, c'est de Gry.
Oui,
mais avant d'arriver en quart de finale, est-ce qu'il n'y a pas ce risque que dans la phase de poule, comme tu disais, Boris, qu'elle prenne ça un peu à la légère
Je veux bien mettre mon PEL. Qui n'est pas très important. Mais
ouais, c'est
bien...
pas le plus gros pari de l'année, mais vas-y, continue, fais-nous rêver.
Je veux bien mettre tout mon argent sur le fait qu'on sortira des poules tranquillement, puisque les
donc,
quatre meilleurs.
Dans la poule, c'est avec la France, Corée du Sud, Norvège et Nigeria.
Ouais, et puis que les quatre meilleurs troisièmes sortent.
Ouais.
Donc il y a 24 équipes.
Si tu finis de deuxième.
Il y a 24 équipes pour arriver en huitième. Si tu fais partie des quatre meilleurs troisièmes sur six poules. Tu te qualifies pour les huitièmes de finale. C'est pour ça que je prends pas un très gros risque en disant que je veux bien parier tout l'oseille que j'ai, et même si j'en ai pas beaucoup, je veux bien le mettre.
Ouais, t'en as.
Bah, okay. Vous maintenant.
Ok, les paris sont pris. Boris, on discutera de la somme du montant de ton PEL après les.
Par
après
contre, je pense qu'elles le prendront pas à la légère. Je les vois pas arriver là à la légère. Et Diacre, je la sens pas prendre des trucs à la légère, en fait.
Ouais,
donc j'imagine que quel que soit l'adversaire, et même, tu vois, dans les poules, elles vont y aller pour marquer des points. Et au contraire, tu vois, si peut-être la jouer aussi à l'américaine pour que, bim, on s'impose à chaque fois et que tout le monde nous voit arriver en disant « Ah ouais,
si
elles en sont là, quoi. »
Si tu commences mal le match, par exemple, contre la Corée, si t'as la pression parce qu'il y a beaucoup de monde et tout, Moi, je peux pas croire que tu passes à côté pendant 90 minutes non. contre une équipe comme ça. Il y a tellement d'écart de niveau à la base qu'il y a un ouais. moment, on a quand même des joueuses cadres. Même si pendant un quart d'heure, 20 minutes, t'es pas bien, tu vas mettre
tout
sur le ballon et tu finis
un peu
après.
Au début et après.
Voilà, après, je te dis pas qu'on va gagner.
En 2015, on les a joués en 8e. On avait gagné 3-0 de mémoire. On avait une équipe, à mon sens, moins forte qu'aujourd'hui. Enfin, on avait une bonne équipe en 2015, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, l'équipe est beaucoup plus équilibrée. Et là, force est de constater que Diacre, elle a su instaurer en tout cas quelque chose. Il y a une vraie dynamique dans cette équipe en tout
ouais,
cas.
Ouais, t'as plus une vraie équipe, ouais. c'est un groupe. Alors qu'avant, t'avais peut-être plus d'individualité. Exactement. Ça a jamais marché quand tu avais ces individualités-là. Donc peut-être qu'aujourd'hui, avec ce groupe-là, parce que bah il y a eu des choix forts qui ont été faits aussi. Peut-être que c'est ça qui va faire que ça va marcher.
Tu parlais ouais. de dynamique, Boris. Là justement, j'ai les derniers matchs des Bleus sous les yeux. Donc elles restent sur 4 victoires consécutives. Contre l'Uruguay 6-0, le Japon 3-1, le Japon vice-championne du monde, hein. Contre le Danemark 4-0 et contre la Thaïlande 3-0. Et même si on remonte avant ça, en fait, elles sont...
Et 2-1 avec la Chine avec le dernier match.
Voilà, et elles sont invaincues, enfin, elles ont juste perdu un seul match, c'était contre l'Allemagne.
Il y a quelques temps déjà.
Il y a quelques temps, c'est ça, mais c'est leur seule défaite en fait, depuis un bon bout de temps. 1-0, c'est ça, contre l'Allemagne. Est-ce qu'on ne peut pas y voir justement la force d'une équipe qui est prête, en fait, qui gagne ses matchs bien, 6-0, 3-1, 4-0, 3-0.
Après, il ne faut pas se laisser griser aussi par des fois l'ampleur des résultats, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a des vrais déséquilibres entre les équipes. Autant ça s'est homogénéisé chez les garçons, autant chez les filles, on a encore des grosses différences de niveau entre les grosses nations. Et on n'a pas de niveau, c'est pas vraiment nivelé. Donc tu peux, je me rappelle même le match contre le Cameroun où elle gagne 6-0, tu vois, alors que pourtant il y avait de l'impact physique, mais tactiquement, techniquement, les Camerounaises, elles
avaient. T'as un vrai sujet de gardienne aussi, en règle générale. Et du coup, enfin, c'est comme le dernier, palier, du coup, forcément, ouais. effectivement, aujourd'hui, le niveau, il n'est pas assez. Juste, enfin, je sais pas comment le dire, mais effectivement, t'as pas le même niveau pour toutes les équipes, mais t'as vraiment des écarts. Et du coup, oui, des fois, tu peux avoir des 3-4-0. Mmh. Mais effectivement, faut pas se fier à ça. Et par contre, je pense qu'il peut y avoir le côté malin, le côté, tu sais, le match qui se retourne, alors qu'en face, techniquement, elles sont moins bonnes que toi, mais elles ont fait 2-3 actions, tu sais, en feeling ou quoi que ce soit. Ça peut se planter assez vite, quoi. Et je te dis, il y a quand même un ouais. souci, je vais dire, sur les gardiennes, quoi.
Ouais. Moi, je me disais juste, tu vois, sur les phases de groupe, attention à ne pas se laisser griser, justement, peut-être par des matchs trop faciles, où si on arrive en mode, comme les Américaines, on cartonne tout le monde, on se dit, ça y est, on est lancé, et que, bah, sauf que le niveau dans les poules, il ne va pas être forcément très élevé, parce que tu prends la Corée, à part G, la joueuse de Chelsea, ouais. justement, qui avait été très très forte contre Lyon et contre le PSG, il n'y a pas grand monde. Tu te dis la Norvège, bah ça va pas être terrible parce que il y a pas les sœurs Hederberg. Donc on rappelle quand même que Ada Hederberg a les ballons d'or, qu'elle jouera pas la Coupe du Monde, que sa sœur Andrine qui joue au PSG, elle a décidé de faire la même chose que sa sœur, à savoir refuser la sélection. Donc a priori c'est quand même pas une grande équipe de Norvège. Le Nigeria, c'est bon, on va y avoir de l'impact, ça va être assez physique, ça va ressembler peut-être un peu au match contre le Cameroun, mais encore une fois, la question de l'enjeu, elle est importante et on ne sait pas comment on va la gérer. Mais a priori, il n'y a pas trop de risques sur ces matchs-là, sachant que à part l'attaquante de Guingamp là qui joue pour l'équipe du Nigeria, j'avoue, je les connais pas trop les autres. Donc on part un peu dans l'inconnu aussi par rapport aux effectifs.
Ok, ben maintenant on va faire une petite revue d'effectifs de l'équipe de France, voir quels sont les points forts, les points faibles, qui seront les révélations, qui va se démarquer justement dans cette équipe de France. Alors, au poste de gardien de but, est-ce que la hiérarchie est clairement établie entre Sarah Boadi, Solène Durand et Pauline Perromanien? Est-ce que... Ouais.
Ouais, enfin pour moi c'est assez c'est lisible, visible et plutôt clair, quoi. T'as Sarah qui est effectivement en première ligne. En plus, elle a l'expérience, le backup, etc. Donc, pour moi, ça, c'est... Enfin, voilà, la théorie des gardiens...
Pas de problème de gardien de but.
Élue meilleure gardienne du monde.
Ouais, ça fait des années consécutives.
Frustrée de... D'accord, là-dessus, on est...
Moi, je pense que c'est clair pour tout le monde, hein, après.
Bah, les numéros, de toute façon, après, elle est parfois critiquée, elle est parfois critiquable aussi. Mais,
comme en tout cas,
au début, ouais. Quand Corinne Diacre est venue, elle a un peu fait jouer la concurrence. Mmh. Sarah a très rapidement montré qu'elle était numéro 1, elle a gardé sa place. Et puis, après, c'est un poste où, enfin, voilà, il faut une. Je pense qu'à partir du moment où tu choisis une gardienne numéro 1, bah, il faut la mettre dans les meilleures conditions. Donc, il faut mettre tous les atouts de son côté aussi. Et
s'il arrive quoi que ce soit, moi, j'ai plutôt confiance en Durand, en fait.
Solène Durand, moi, 3, non,
non, pour moi, c'est la 2, non.
Bah,
moi, j'aurais dit que c'était plutôt...
Auparavant, elle était numéro 2. Là, je crois qu'elle est toujours numéro 2, hein, il me semble. Hein.
OK.
Bon, on ne va pas souhaiter que ça arrive pas. Mais
en
fait, quand
si on arrive à Solène et elle est 3e, sache que je crois en toi.
C'est Pauline qui s'était blessée dans un match où elle était censée jouer. Là, où
elle a joué, je crois, un quart d'heure et elle s'est blessée.
Ouais, sur un dégagement, elle s'était claquée. Donc, on n'a pas eu trop l'occasion de la voir. Après, elle joue à Arsenal. Arsenal, c'est, enfin, je t'avoue que c'est pas forcément une équipe où c'est très, très, très relevé. Là, aujourd'hui, je pense que la question, de toute façon, elle se pose pas parce que, de toute manière, ça fait des mois et des années que Sarah, elle est en place.
Pour le coup, il n'y a aucun doute sur le fait que Sarah joue ou ne joue pas. Enfin, voilà. C'est la numéro 1, elle jouera
après
si elle se
blesse ou si elle se fait pousser. On connaît les défauts de Sarah Boisdi, on connaît ses qualités aussi. On sait que le jeu au pied, ce n'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus fort chez elle. Mais en même temps, elle a donné des gages de sécurité depuis des années. C'est la même défense qu'à... Bon, je pense qu'on va passer après à la défense. C'est la même défense qu'à l'OL. Donc, il y a quand même beaucoup d'automatismes. Et dans une compétition comme ça, on sait que c'est précieux d'avoir des automatismes et de connaître parfaitement sa charnière centrale.
Ah ben, on a une défense centrale, sincèrement. Enfin, pour les passer, il faut s'accrocher, quoi. Après, enfin, voilà, on va voir si Grid Jambok est rétabli ou pas. Mais mettez n'importe quelle attaquante ou équipe en termes offensifs. Quand en face de vous, vous avez dans l'axe Mbok, Wendy Renard et Amandine Henry en 6.
Amuse-toi pour les passer, hein.
Franchement, il faut y aller. Puis c'est ça que ce que tu disais, c'est qu'il y a beaucoup d'automatisme. Sur les 5 joueuses qui sont vraiment en défense, la gardienne et les 4 défenseurs, il y a 4 lyonnaises. Donc il y a juste Marion Thorin sur la droite qui ne joue pas à l'OL. Donc voilà, il y a des automatismes, il y a une solidité qui est hyper importante. Et encore une fois, pour passer cette défense-là.
Donc on est d'accord que sur la ligne de 4, on est sur Majri, Mbok, Renard et Torrent, c'est ça?
Ouais. Et Marion Thorin à droite.
Est-ce qu'il n'y a pas justement une joueuse qui peut bousculer
la
hiérarchie?
De toute façon, il n'y a que sur le poste d'arrière droit qui pourrait y avoir une question. Mais je pense que c'est établi maintenant que ce sera Marion Thorin qui joue.
Elle a joué quasiment tous les matchs sous Diacre.
Exactement.
Donc,
coup, et là,
il n'y a aucune surprise derrière. Enfin, je pense que vraiment.
Et Amel était blessée au dernier match. C'est F. Perisset qui a joué arrière gauche. Alors que normalement,
elle est plutôt.
Et F. Perisset plutôt en doublure où ça tournait un peu avec Marion à des moments à droite. Là, en plus de ça, Amel a joué arrière gauche toute l'année. Elle était vraiment repositionnée avec l'OL, repositionnée là. Donc, et en équipe de France et à Lyon, elle joue arrière gauche maintenant. On sait que ça. En plus, on connaît les qualités d'Amel Majri. Moi, je trouve qu'on est assez chanceux de la voir jouer.
C'est même frustrant qu'elle joue arrière gauche, parfois.
C'est même frustrant. Moi, je suis très frustré qu'elle joue arrière gauche, parce que c'est un tel régal techniquement.
J'aurais aimé la voir sur le côté gauche.
C'est un tel régal techniquement, dans les débordements, dans l'impact, dans les dribbles, dans la créativité.
La précision de cette meuf. Regardez-la.
Puis la technique. Ouais, elle a une capacité à éliminer les adversaires aussi.
C'est déconcertant.
C'est le football moderne, justement.
C'est beau.
Derrière gauche,
une latérale.
C'est du beau football,
latérale.
Ouais, grave.
C'est Jordi Alba, tu vois, ça monte, ça redescend, ça dribble, ça met des misères, ça met des petits ponts.
C'est ça.
Abdallah, elle te ferait danser, j'aimerais bien te voir en un contre un avec elle te ferait tellement danser.
Moi, je suis nul.
Parce que t'es nul en plus, c'est pour ça.
Moi, je suis nul au football.
Déjà que moi, je te fais danser, alors.
On n'a jamais joué ensemble.
Laisse-moi construire ma légende.
Non. Alors, je peux assumer mon niveau, mais on va pas raconter des histoires. Alors, du coup, sur le milieu de terrain, tu parlais d'Amandine Henry, Charlotte.
Amandine Henry en 6, et en général, Elise Boussaglia. Ouais. C'est ce qui a été fait quasiment à chaque fois. Donc,
Boussaglia aussi, hyper solide. J'aime bien l'histoire de cette nana.
De plutôt défensive, et avec Gaëtan Tiné en 10. Mmh. Là, pour le coup, c'est ce qui est fait à chaque fois. Quand Elise Boussaglia a été parfois de côté ou Amandine Henry pour avoir un profil défensif, c'est souvent Charlotte Bilbao qui joue. Il y a Grace Gayoro qui est là aussi sur le banc, mais qui en général rend plus.
En plus.
Ouais, et puis qui a été utilisée en numéro 10, en doublure de Gaëtan Tiné. Ah, au PSG. Parfois, elle peut jouer en 6, en 8 ou en 10.
En fait, au PSG, elle joue, ils jouent pareil, ils jouent à 2-6 avec Wang, la chinoise, justement. On en a Wang pas parlé tout à l'heure, mais Wang, qui joue au PSG, qui est une joueuse extraordinaire qui joue pour la Chine.
Bref, bah, buteuse du match de vendredi dernier.
Exactement.
Vendredi dernier.
Donc, je digresse un peu, mais Grace Gayoro, quand elle joue en milieu défensif, elle a cette tendance quand même à organiser le jeu et à participer parce que Wang, elle est en 19,5 et elle vient pas trop aider donc pour récupérer, mais Grace se projette pas mal. Donc c'est un profil intéressant. Si tu veux jouer plus offensif, tu peux jouer Amandine Henry, Grace Gayoro qui peut faire le taf. Elle est forte dans le jeu long. Techniquement, c'est pas maladroit aussi s'il faut éliminer. Elle a une bonne frappe, même si elle tire pas souvent.
Busaglia a marqué quelques buts extérieurs à la surface.
Et c'est vrai qu'on a quand même une équipe qui est assez. Je trouve que c'est assez complémentaire au niveau des profils. Ça se ressemble pas trop, mais ça peut jouer tu vois, sur les postes de milieu def. Parce que tu parlais de Charlotte Bilbao, c'est plutôt défensif, mais c'est aussi intéressant qu'elle a fait une bonne saison avec le PFC. Donc
est-ce qu'il n'y a pas une joueuse qui peut justement souvent on retrouve ça dans les équipes, dans les grands tournois, une joueuse ou un joueur qui justement bouscule un peu la hiérarchie, qui arrive un peu à s'installer durablement, peut-être sur la fin de la compétition, mais qui commence pas, mais sur la fin de la compétition, donne satisfaction.
La Franck Ribéry de 2006.
Franck Ribéry
La seule interrogation qu'il y a sur la compo de la France,
c'est devant.
Là, il nous manque plus que les trois de devant. On sait qu'il y aura Eugénie Le Sommer qui sera priori sur la gauche. Kadidiani qui sera titulaire, si on écoute ce que dit ça chuchote.
On sent le coup de cœur d'Emilie Ross.
Donc, soit il y aura Kadidiani à droite et dans l'axe
Valérie Gauvin
ou plutôt Valérie
ce
Gauvin.
Ce sera Valérie
Gauvin. Soit Gianni dans l'axe et à droite peut-être Cascarino.
Ah, ça c'est moi.
Pour moi, c'est Delphine Cascarino qui justement peut être un peu la surprise parce qu'elle a
Cascarino, elle
cavale
en plus. Elle cavale. Elle peut impressionner en vitesse. Je pense qu'elle va faire fermer les bouches.
Mon cœur il balance pas parce que je suis tellement admiratif de Delphine Cascarino. Pour moi, c'est un peu Mbappé, tu vois, il y a un truc, elle va tellement
elle dribble, c'est tellement
technique, c'est des skills de partout, et c'est pas des skills pour rien, tu sais, elle dribble pas pour dribbler. Hein,
elle fait pas du spectacle à chaque fois. Hein.
Ouais. Et elle passe tout le temps, et alors à Lyon, on a un peu le même, la question s'est posée un peu de la même manière, parce qu'elle est pas toujours titulaire à Lyon, quand elle est titulaire, elle est toujours très forte, mais très souvent, elle débute pas. Donc,
c'est bien ce genre de super, ce profil de super sub, c'est important.
Après, à Lyon, il y a peut-être plus de concurrence qu'en équipe de France aussi, parce que là, en équipe de France, il y a un point de Valérie Gauvin. Sur la droite, on parlait de Kadidiani. Après, il y a Vivi Assehi.
Après, Valérie.
Et Emeline Laurent aussi, qui a un profil pareil, ou qui joue vachement sur la vitesse.
Après, Valérie Gauvin, elle est vraiment utilisée comme un point d'appui, point d'ancrage. Elle joue très bien en pivot, et puis elle est aussi très décisive dans la surface. Donc, c'est des profils différents. Ça dépend vraiment comment on veut jouer. C'est sûr que si tu veux mettre en mode les flammes de l'enfer et on balance
aussi
le napalm avec, genre des fusées devant, on met Caddy, on met Delphine Cascarino à droite et tu mets Eugénie Le Sommer. Ah, t'inquiète que Eugénie Le Sommer, elle va t'envoyer des ogives aussi. Donc, on a vraiment une grosse équipe. Hein. Je parle aussi pour les gens qui connaissent pas bien l'équipe de France. Tant mieux pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas, ils vont découvrir qu'on a une très grosse équipe.
Belle frappe. Enfin, faut vraiment détailler. C'est hyper intéressant de regarder aussi. Et moi, j'aime bien regarder les matchs par joueuse. Tu sais, je vais regarder un match, mais je regarde qu'une joueuse.
Ouais.
Bon, faut avoir le temps. Hein, c'est un peu fatigant, mais faut juste avoir le temps. Et du coup, tu vois effectivement les qualités des joueuses. Et en attaque, on a des meufs qui mettent des patates gyrophares, quoi.
Alors, du coup, c'est marrant parce que quand tu vas voir un match avec Emily. Alors, j'étais avec Emily à France-Chine pour la petite anecdote. J'étais avec Emily à France-Chine. Et à un moment, je lui parle de jouer. Je dis, ouais, t'as vu Valérie ce qu'elle a fait? T'as vu Cascarino? Oh là, le dribble, et tout a fait. Ah non, moi, je sais pas, j'ai regardé que Caddy. Caddy. Elle avait que. Par contre, elle peut te raconter le match de Caddy Atoudiani du début à la fin. Dire, ouais, elle a mis le pied droit quand elle est rentrée sur la pelouse. C'est le pied droit qu'elle a posé.
J'aime bien taper des focus, en fait, sur les joueuses. Ouais.
Je crois qu'elle t'a dédicacé le but, non?
Elle avait un 39 de foot.
Moquez-vous. Ah, c'est ça. Moquez-vous, vous verrez.
Elle a fait le, tu sais, la célébration, elle a fait un hashtag.
On en parle le 8 juillet, les gars. Le 8 juillet.
Ou le 7, hein. Si tu veux, même le 7 au soir.
Le 7 au soir.
On sera mort. On sera
18h, la finale, il y aura le temps après.
Si on devait dégager justement un point fort de cette équipe, parmi les lignes, gardienne, défenseur, milieu, attaquante, quel est le gros point fort de cette équipe de France?
Un seul?
Ah, c'est dur.
Ouais. Ah, c'est dur.
Bah, on en dit un chacun alors.
Ah, c'est
vas-y,
bonne...
Boris.
Bah, moi, je vais dire Gry Djembok.
Au hasard. Ah, il faut dire une joueuse.
Ouais, une seule.
Une seule, ouais.
Une seule. Moi, je vais dire. En fait, je vais dire Gry, pas forcément pas seulement parce que je l'adore, mais aussi parce que je pense que ça va être la révélation. J'y crois vraiment. Je crois vraiment au fait que Wendy, elle est tellement forte qu'on le sait déjà. Et je pense qu'en défense centrale, on va se rendre compte que on a le futur, on a le présent et on a le futur et le présent du futur. C'est The Rock. C'est
elle allie la puissance et la vitesse.
C'est l'attraction arrière. C'est le phare indomptable. C'est la Bretonne sur la Bretonne Camer. Elle est Bretonne et Camer en même temps, donc c'est la Bretonne Camer.
Pour toi, Émilie.
Moi, Diani, c'est mon coup de cœur parce que je pense qu'elle va effectivement, qu'elle va faire. Bon, c'est une joueuse du PSG, donc je suis un peu vendue sur le sujet. Mais après, j'aime beaucoup Eugénie Sommer et j'aime beaucoup cette joueuse. Son jeu, c'est pareil, très pro, très très stable en fait. Eugénie, elle est pied au sol, quoi. Et elle est là et par contre,
c'est fiable même. Tu vois, j'ai envie de dire quand on parle de
c'est
Eugénie
ta meuf
Sommer,
sûre en fait.
Ah ouais.
C'est ça.
C'est t'as l'impression, c'est affreux ce que je veux dire. Elle peut pas te décevoir. Je sais pas comment te dire, t'as l'impression que l'équipe peut se reposer sur cette meuf. Elle est là, elle est concentrée, elle est sereine. T'as l'impression qu'elle ne... Après, je te dis, c'est peut-être biaisé, mais j'ai l'impression qu'elle ne passe... Elle passe rarement à côté de ses matchs, en fait. Elle arrive toujours à faire quelque chose. Donc moi, j'aime bien. Après, en pépite de cette année, ouais, j'ai envie que ce soit l'année Diani, mais le Sommer aussi. Après, c'est un peu facile, là. On met que des... Enfin, moi, je suis très branchée attaquante, forcément, mais...
Faut dire qu'elle est par ligne, c'est ça?
Une joueuse, excuse-moi.
Moi j'ai un petit coup de cœur pour Amel Majri, mais donc défenseur, mais qui est hyper offensive. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, enfin voilà, techniquement et elle peut faire la différence n'importe quand quasiment. Après, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur Eugénie où c'est notre go sûr.
Ouais, c'est ça. Non,
et
ouais.
C'est elle, enfin on sait qu'elle va marquer, qu'elle va nous sortir parfois de situations un peu délicates. Elle a l'expérience, ça fait très longtemps qu'elle est là. C'est la meilleure buteuse en activité d'équipe de France.
Et puis elle a le record
titre
à battre.
Chercher,
ouais.
Voilà, elle a le record de Marinette Pichon.
Marinette, accroche-toi.
Je pense que quelque part, elle y pense aussi un petit peu. Et donc,
elle est
à
combien là, du record? Elle est plus beaucoup. Hein.
Non, je crois que c'est 60.
Marinette, c'est 81, je crois. Et je crois qu'elle est à 74, non?
Ah, j'aurais dit 70.
J'ai pas les chiffres en tête, malheureusement.
Mais je crois qu'on est à moins de 10 buts, c'est sûr. Donc sur une compète. C'est faisable, c'est un peu. Mais je crois que c'est 7.
Si elle nous sort un triplé contre une petite équipe en face de
poule, je crois
qu'elle
est à 7 buts, il me semble. Hein,
il me semble que c'est 74 Eugénie et 80 Marinette Pichon.
Parce que. Après, de tête, sur une Coupe du Monde, c'est pas toujours évident de marquer. Parce que.
Lors de la dernière, 6 buts.
À date, 74. Mais je sais pas si c'est mis à jour.
En même temps, elle a pas marqué au dernier match.
Ça devrait être ça.
Donc ça doit être
après,
ça.
Voilà, si c'est pour revenir aussi à la force, entre guillemets, de cette équipe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est
le
qu'il
collectif.
Y a une... Ouais, le collectif, et encore une fois, c'est la colonne vertébrale, entre guillemets, avec Gry Djembok, Wendy Renard et Amandine Henry. Enfin,
et,
voilà, c'est...
et puis, on n'a pas beaucoup parlé des remplaçantes, mais on a un vrai groupe quand même, parce que derrière, il y a des gens qui peuvent prendre le relais. Alors tout à l'heure on disait F. Périsset à
moi,
droite,
j'aime beaucoup F. Périsset,
c'est solide, hein. Elle a fait une très grosse saison avec le PSG, elle peut dépanner à gauche.
Défenseur, hein.
Elle peut dépanner à gauche. Sakina Karchaoui, c'est pas inintéressant, elle est rentrée beaucoup plus haut contre la Chine, elle est rentrée milieu offensif gauche, au-dessus de, donc c'était F qui jouait d'ailleurs, donc et c'est ça a été moi j'étais étonné parce que je l'avais pas vu jouer aussi haut avec Montpellier, je sais pas, j'ai pas vu tous les matchs de Montpellier cette saison, mais de mémoire je l'avais pas vu jouer aussi haut sur le terrain, mais c'était pas inintéressant. Aïssa Toutounkara en défense centrale, si jamais il y a une défection, tu vois, parce qu'on disait que Gridge était incertaine pour le premier match. On ne sait pas encore si elle jouera ou pas. Aïssa Tou, dans les matchs de prépa, c'est quand même très très solide. Au milieu, on a fait un peu le tour d'effectifs. Il y a de quoi faire aussi sur les postes de milieu défensif. Alors, on n'a pas parlé de Gaëtan Tinet, mais c'est vrai que si jamais elle n'est pas là, Eugénie, elle peut aussi repasser en 10. Donc, elle l'a déjà fait.
Fan de Charlotte.
Sur non, ce poste de 9,5-10, tu vois, toi, tu préfères Grasse en 10?
C'est pas que je préfère, c'est que je pense que si jamais il n'y a pas Gaëtan Tinet, ce sera Grasse qui sera en 10 et pas Eugénie. Eugénie, je la vois plus sur le côté, enfin en tout cas ce que fait Diacre en général, et sur le côté, voire moi j'aimerais bien l'avoir en pointe parce que c'est une vraie buteuse. Après, il y a Vivi Assehi qui avait fait un bon match sur le côté gauche à l'avant-dernier match
amical.
On n'a
pas parlé d'elle, hein, qui joue à
Bordeaux.
Alors
qu'elle rentre souvent sur la droite, voire dans l'axe, et là elle avait été titulaire sur le côté gauche, l'absence de génie, justement. Et elle a fait un très bon match aussi. Et rien que pour sa maman, moi, je voudrais qu'elle joue un peu.
J'ai pas osé le dire, mais oui.
Ah, Sidonie.
Et puis à Bordeaux, elle a fait une saison exceptionnelle. Hein. Elle a joué en pointe, pour le coup. Et elle a beaucoup marqué. Elle a mis des très beaux buts. On a un banc qui est quand même assez fourni aussi. Et moi, c'est pour ça que j'ai envie d'y croire. C'est pas seulement parce que c'est en France et qu'elles sont sympas. C'est qu'on a, on a une vraie bonne équipe. Mmh. On a vraiment une bonne équipe. On a un vrai bon groupe. Ouais. Donc, quand je dis équipe, c'est vraiment, on a 23 bonnes joueuses. Et il y a moyen
la
qu'on
team zéro objectivité. On est tellement ouais, adorables. Mais je pense, j'ai aucun recul sur cette équipe. J'ai envie qu'elle aille le plus loin. Je les aime toutes.
Je pense
toutes,
qu'on a tous tellement envie, au bout d'un ouais. moment, qu'elle gagne et qu'elle fasse quelque chose. On n'a peut-être pas tout à fait le recul nécessaire. Mais bon.
Pour l'instant, j'arrive pas à être critique.
Parce que moi, justement, pour parler un peu de mon expérience perso, moi, j'ai découvert cette équipe cette équipe de France en même temps que j'ai découvert vraiment le foot féminin en 2011 à l'occasion du Mondial. Et depuis, à chaque fois, il y a toujours un petit espoir. On a toujours un peu une belle équipe sur le papier. C'est pas dans les favoris, dans les outsiders en tout cas. Et à chaque fois, il y a toujours on va le dire honnêtement, toujours une déception, toujours un match qui fait que ça l'a pas fait. Et là, j'ai l'impression que c'est peut-être la bonne année en fait. C'est vraiment.
Alors moi, je suis pas objective non plus. Et ce que tu dis, tu vois. J'avais senti ça en 2011, j'avais senti ça en 2015. J'étais au taquet pour les Jeux en 2016, peut-être un peu moins en 2017.
En 2017, on sentait quand même que ce ne serait pas le cas.
C'est pour ça que je te dis moins en 2017. Mais franchement, 2015, 2016 aux Jeux, on a toujours eu de très très bonnes équipes avec quasiment les meilleures joueuses.
Alors, la seule nuance que j'apporterais là-dedans, et c'est pourquoi je suis optimiste, c'est que ça joue bien. Et ça n'a pas toujours été le cas. Auparavant, on avait des bonnes joueuses, mais ça ne jouait pas toujours bien. Et c'est ce qu'on disait en préambule. Je pense que ça fait une grosse différence sur cette compétition. C'est que quand même, il y a des petits gages de sérénité, de sécurité. En tout cas, on a quelques bonnes idées dans le jeu depuis un moment. J'ai envie de croire que
les matchs amicaux
bon
nous ont vachement rassurés aussi, honnêtement.
Et parce qu'on a joué contre des grosses équipes et ça a été solide.
La maillot, elle prend et du coup, c'est ce que disait Charles tout à l'heure. Là, il y a une
c'est
équipe
un
et puis ouais, exactement.
Bon, je vais faire le c'est mec qui plombe un peu l'ambiance, mais
ouais, mollo. Vas-y.
On parle de beaux jeux, là, c'est très bien. Moi, je suis friand de ça, mais on sait que c'est grosse compétition, c'est sur un temps très très court et c'est ce qu'on dit tout le temps dans le sport, ce sont les défenses qui font gagner des titres. Est-ce que justement le fait d'être trop beau dans le jeu, ça ne peut pas nous porter préjudice? À un moment, il va falloir fermer. Est-ce qu'on est capable de fermer? Tu fais un peu la grimace, Boris. Est-ce qu'on est capable de fermer le jeu pour tenir un résultat et justement passer le tour d'après?
Aucune idée.
Ah, moi, je pense que oui. Je pense que oui, justement, quand tu vois derrière ce qu'on disait tout à l'heure, Mbok, Wendy Renard, Amandine Henry. Et encore une fois, je prends l'exemple du match qu'on a vu de Lyon à Chelsea, où franchement, j'ai rarement vu les Lyonnaises se faire autant bouger sur un match. Elles ont subi, elles sont rentrées dans un contexte où c'était un petit stade, il y avait une ambiance,
tout,
il y avait
tout
un
était
engouement.
Chelou.
Enfin voilà, elles prennent un but, sincèrement, c'était vraiment chaud. Mmh. Et bah, c'est Gray Jembock que j'avais vu quelques temps après qui me disait « Parfois, les matchs, si on n'arrive pas à les gagner, bah, il faut savoir ne pas perdre ». Et concrètement, ce jour-là, les Lyonnaises, bah, elles savaient qu'elles ne perdront pas ce match. Donc, c'était pas hyper beau à voir parce qu'il n'y avait pas forcément eu de jeu, etc. Mais elles ont su fermer le jeu, en fait, et ne pas prendre de but. Donc, comme beaucoup sont en équipe de France aussi, j'ose espérer qu'à un moment, toute cette expérience qu'elles ont en club et tout ce qui fait qu'elles gagnent, qu'elles y arrivent avec Lyon, il y a un moment, il faut qu'elles arrivent à faire la même chose en équipe de France, vu qu'il y a quand même peut-être 60-70% de l'équipe qui fait équipe lyonnaise.
C'est la seule inquiétude que j'ai. C'est-à-dire que, comme on le disait aussi au début, est-ce qu'elles vont être en capacité de pouvoir gérer leurs émotions? Parce que, ouais, elles sont habituées à jouer dans des petits stades. Et je pense que, tu vois, au maximum de l'affluence, on tourne autour de 10-15 000 en général. J'espère juste que, tu vois, s'il y a un match difficile et que t'es au Parc OL, que t'es en demi-finale, qu'il y a 60 000 personnes et que tu... Au Groupama Stadium, j'arrivais plus à trouver le nom. Au Groupama Stadium.
C'est le stade de Lyon pour la Coupe du Monde, t'as pas le droit de
le stade.
C'est vrai,
de Lyon.
Ah pardon. Ah oui, c'est vrai.
Bon, que t'es au stade de Lyon, qu'il y a 60 000 personnes et que tu dois fermer et garder le score. Bah, j'espère qu'on saura le faire. Et pour l'instant...
Après, tu auras 60 000 personnes, mais qui seront derrière toi.
Oui, mais tu sais aussi que parfois, quand ça peut te tétaniser. Moi, j'arrive pas à savoir.
Le mental de cette équipe, c'est ce qui, je pense, fera qu'on gagne ou pas aussi. Parce que, encore une fois, les joueuses, on a de très bonnes joueuses. On a toujours eu de très bonnes joueuses sur les années précédentes. Et il y a un moment, c'est dans la tête aussi que la différence, elle se fera.
Il y a un nom qu'on n'a pas cité encore, et c'est normal, parce qu'elle n'est pas dans le groupe. Et ça montre à quel point c'est difficile de composer un groupe pour une grande compétition. C'est Charlotte Prato.
Non, c'est pas Charlotte Prato, c'est Vanessa Lemoigne. Vanessa, on pense à toi.
On pense à la campagne de lobbying de Charlotte Prato et Vanessa Lemoigne pour l'envoyer justement Vanessa au Mondial. Bon, malheureusement, c'est pas arrivé.
Pas encore.
Non, c'est l'absence de Katoto qui a beaucoup fait parler, justement. Est-ce que c'était prévisible qu'elle ne soit pas dans le groupe, ou ça a été aussi une surprise pour vous? Oula, ce silence là.
Moi, c'était pas une surprise parce que je m'en doutais depuis un moment. En revanche, sportivement, c'est quand même une petite surprise. On va dire, j'ai pas été surpris, mais avec un peu, pour l'instant, tu vois, j'arrive pas à savoir si, c'est un peu normal parce qu'on n'a pas encore joué, si Corinne Diacre a eu raison ou non. Mais moi, j'étais un peu étonné de son choix parce que, surtout par rapport à la après la justification du choix en disant c'est un choix pour le groupe. Et moi, ce que je sais du groupe, alors j'en sais pas forcément énormément, mais de ce que je sais du groupe, c'est pas une joueuse qui pose problème pour les autres joueuses en tout cas. Donc
est-ce qu'elle a des relations conflictuelles avec Corinne Diacre, c'est ça qu'elle veut dire?
Moi, je pense même pas, mais...
Moi, j'arrive pas à savoir ce qu'elle veut dire, du coup. Est-ce que ça veut dire pour le groupe, parce qu'elle pense qu'elle ferait pas les efforts si jamais c'est difficile et qu'elle joue pour elle? Enfin, tu vois, elle a pas expliqué le truc, moi, j'arrive pas à savoir trop ce que c'est. En tout cas, c'est pas une question de talent, parce que Katoto, le talent, elle l'a et elle en a à revendre. Et j'espère qu'on la reverra en équipe de France, parce que c'est une joueuse exceptionnelle et elle finit pas meilleure buteuse du championnat avec 22 buts, si je ne m'abuse. Titre de meilleur espoir du champion de révélation de l'année, etc. Si elle a pas de talent. Après, est-ce que c'est des problèmes relationnels avec Diacre? Est-ce que c'est qu'elle considère que encore une fois elle ferait pas les efforts dans l'adversité? Ça, moi, je sais pas.
Est-ce que c'est pas le fait de se dire est-ce que tu peux prendre Katoto dans le groupe et ne pas la mettre titulaire, ne pas la faire jouer?
C'est ce que je voulais dire. C'est ça.
Moi, je pense que c'est plus vis-à-vis de ça. C'est que pour moi, par rapport à ses stats, à son jeu, quelle est sa place dans les 23, évidemment. Est-ce que Diacre, elle ne s'est pas dit le fait de la faire venir, ça mettrait plus de concurrence en attaque, ça va plus déséquilibrer le groupe, alors que d'autres joueuses, c'est pas péjoratif, mais rien que d'être dans le groupe, même si elles ne jouent pas, elles sont contentes d'être là. Et je pense que ce n'est pas du tout dans le caractère de Katoto de juste être à la Coupe du Monde.
Et surtout qu'il y a un mot qui est repris souvent par Diacre à son sujet et Chouafny. Je rappelle quand même, tu vois, côté PSG, donc il vit avec elle à l'année, et c'est fragile. C'est un mot qu'ils ont chacun utilisé. Et donc, je pense qu'il y a peut-être... Alors, c'est peut-être mon côté bisounours, mais je me dis, effectivement, c'est peut-être pour la préserver. Après, bien évidemment, quand j'ai vu qu'elle n'était pas dans la liste, je me suis dit, oh,
c'est dur.
C'est dur parce que t'as envie de l'amener au bout. Après, dans l'esprit d'un groupe, etc., finalement, ça ne m'a pas étonnée tant que ça. De toute façon, il faut faire des choix. Et j'ai envie de te dire, tant mieux parce qu'on en parle aujourd'hui. Désolée, mais moi, du coup, en termes de communication pour cette équipe de France, j'aime que les gens se rebellent parce qu'ils sont pas d'accord, parce que la liste n'est pas là forcément celle qu'ils voulaient. Ça veut dire que tu t'y intéresses, c'est tant mieux. Mais du coup, moi, pour le cas Katoto, c'est le cas de le dire. C'est le mot fragile qui m'a marqué, qui a été utilisé par les deux, et je me dis ouais, c'est peut-être effectivement pour elle. Je trouve ça très dur et en même temps.
Moi, je trouve ça d'autant plus dur.
Tu reviens de venger ma grande quoi. On t'attend, on est là quoi.
Ouais, mais quand tu vois l'évolution, justement, encore une fois, elle est super jeune. Elle fait un mauvais mondial l'année dernière sur la compétition des jeunes. Ok, donc si tu veux la punir entre guillemets parce qu'elle a pas été présente sur ses gros matchs, ne la prends pas toute l'année alors. Tu la laisses avec les jeunes. Tu lui fais pas espérer. Moi, ce que je trouve très très dur, c'est dans le comportement. On l'a pris en équipe de France.
À l'avant-dernier rassemblement,
elle a marqué.
Oui.
Elle a marqué en équipe de France. Enfin, encore une fois, dans les docs qui ont été faits, c'est celui de Canal, je crois, qui
la montre beaucoup.
Enfin, on peut pas lui reprocher non plus. Ok, elle a eu quelques absences, mais comme souvent. Mais je trouve dans la façon de faire, pour elle, elle, je trouvais que c'était
elle
vraiment
sort
dur.
De la liste à ouais, l'avant-dernier rassemblement avant la, enfin quand, avant la liste.
Quand la liste est donnée la veille du match retour entre le PSG et Chelsea et qu'elle fait un mauvais match.
Bah, d'ailleurs elle est transparente dans ce match-là.
Ouais, mais bon, je pense que ça a joué aussi.
Évidemment.
Mentalement, enfin encore une fois, elle a 20 ans donc je pense que t'as pas l'expérience et
alors si par malheur les Bleus ne vont pas au bout de la compétition, est-ce que c'est un argument que même nous ici on pourrait qu'on pourrait utiliser pour blâmer la sélectionneuse en disant bah ouais on n'est pas allé au bout mais en même temps on n'a pas pris Katoto.
Donc, bah ça dépendra de ce que t'auras montré. Si tu perds que t'es éliminé mais en ayant montré du jeu, en ayant marqué des buts, etc.
Ça dépend vraiment des joueuses en fait, de la perte des joueuses. Là on est sur de l'individuel. Qu'est-ce qu'elles ont fait ou qu'est-ce qu'elles n'auront pas fait? Et là, effectivement, on pourra taper dessus.
Si Valérie Gauvin, elle marque zéro but alors qu'elle a marqué dans tous les matchs où elle a joué jusque-là.
T'as pris la place de quoi?
Ouais. Bah, tu pourras dire, on aurait peut-être dû prendre Katoto, comme si Bussaglia.
Après Giroud, elle fait zéro but aussi.
Hein. Arrête. Ah non, pas Giroud par contre. Hein. Ah non, touche pas à Giroud.
Mais tu vois, de la même manière qu'on pourrait dire Bussaglia, si jamais elle fait un très mauvais mondial et qu'elle passe à travers tous ses matchs et que derrière Charlotte Bilbao, elle essaie de prendre le relais, elle n'y arrive pas, et que Grace Gayoro, elle se blesse, tu pourras dire pourquoi on n'a pas pris Amraoui, tu vois, on peut toujours refaire les listes comme ça, parce qu'on n'a pas parlé de Kerr Amraoui qui est sorti pareil.
En gros, tu avais trois filles qui étaient quand même régulièrement appelées, tu avais Katoto, Amraoui et Dali. C'est les trois qui ont été un peu éjectées, entre guillemets, de cette liste, où tu pourras te poser des questions, parce que si l'équipe titulaire que tu as, bah, si par malheur, t'en as une qui se blesse ou qui est suspendue, si la numéro 2 ne répond pas présente, entre guillemets, c'est là où tu pourras te poser des questions.
Après, on est dans une place confortable. Hein. On est là que pour juger a posteriori ce qui se passe. Donc, c'est toujours beaucoup plus facile d'aller tresser des louanges ou de distribuer les mauvais points lorsqu'on est à notre place. Aujourd'hui, je peux comprendre le choix de Diacre. Je sais pas si je le cautionne. En tout cas, j'essaie de le comprendre. Donc, je peux pas en dire plus que ça. Il fallait faire des choix. Quand on prend Giroud et qu'on prend pas Benzema, j'ai entendu plein de gens dire c'est quoi, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, quand tu vois les matchs de l'équipe de France, avec un Giroud qui marque zéro but, moi je peux pas dire.
Faites l'exercice. Regarde les matchs.
Il a fait une mauvaise Coupe du Monde.
Et tu regardes que Giroud. Moi, je l'ai fait.
Du coup, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai déjà eu des discussions comme ça à propos d'Olivier Giroud où je dis finalement c'est le joueur qu'il nous faut dans le fonctionnement qu'on a pour l'équipe de France. Et de la même manière que Valérie Gauvin, je pense qu'elle faisait pas l'unanimité auprès de toute l'équipe au départ quand ils l'ont vu arriver en disant Valérie Gauvin finalement dans ce système là c'est la joueuse qu'il faut peut-être tu vois de point de fixation et en plus elle est décisive assez régulièrement donc pourquoi ce serait pas la joueuse qu'il nous faut tu vois et elle a pris la place de Katoto entre guillemets
je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas aujourd'hui que tu pourras dire si oui ou non c'était un bon choix, ça sera à la fin de la compète, que tu gagnes ou pas, tu le verras en fonction du jeu, de ce qu'on aura montré.
Donc j'espère qu'elle aura fait un bon choix, parce que ça voudra dire qu'on a gagné la compétition et que personne ne pourra critiquer
la décision. Si on gagne, mais qu'on a une attaque nulle et qu'on marque peu, moi ça me va. Hein, au final, on gagne.
Jurisprudence Guy Varche. Hein.
Et Giroud.
Non, parce qu'on a marqué des buts. En remarque, on avait la meilleure attaque en 98 aussi. Hein. Donc, voilà. Comme quoi.
Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Dernière question, on est le 7 juillet prochain. Quel match vous regardez?
J'ai pas le tableau.
J'ai pas le tableau en tête. Moi, je vais dire France-Allemagne. J'avoue, je sais pas si l'Allemagne peut aller si on est.
Ça marche ou pas l'Allemagne?
Si on est dans le même tableau, je sais pas. J'ai pas le tableau sous les yeux.
Je pense que ça peut le faire. En vrai, je pense que tout est possible en fonction des. Tout est possible en vrai.
Mais je dirais France-Allemagne parce que je pense que on n'a pas parlé d'elle, mais je pense que Jennifer Marojane va faire une compétition. Je veux bien mettre elle aussi. Je veux bien mettre un petit billet sur Marojane.
Ça va être compliqué avec les meilleurs troisièmes et tout de faire un.
Ouais, ça va être
un truc.
Parce que genre France-Brésil, c'est possible ou pas?
Tout est possible.
Ah, moi, j'y crois pas trop au Brésil. Ah ouais, non, Brésil. Trop vieillissant.
Ouais, d'accord, mais moi pour le.
Non, en gros, tout le monde.
Il a pas dit.
Je vais reformuler. On se rapproche tout doucement des quadrats, donc on les respecte. on les respecte un peu plus.
Il me demande.
Je vais reformuler la question. Donc, qui vous voyez aller au bout? Donc, j'imagine que Boris, c'est la France, je suppose.
Bah ouais, ouais.
Ouais, ouais, j'ai, okay. Moi, j'ai
ouais, j'avoue, France-Allemagne, ouais.
Émilie aussi?
Ouais, France-Allemagne.
France. Et toi, Charlotte?
Ah ouais, France.
Ouais, France-Allemagne, ouais. On aura sorti l'Angleterre en demi. Et
ah, ça me ferait bien plaisir qu'on sorte les Anglais en plus.
Allez, roast beef.
Ah, c'est la nation que j'aime le moins, je pense, de toute cette compète.
Ok, bah moi aussi, je vois la France, comme j'ai vu la France l'an dernier à la Coupe du Monde. Et j'espère sincèrement qu'on aura la chance de célébrer tout ça tous ensemble.
On reviendra.
Ici pour...
on s'appelle l'oracle de Blanc-Ménil, c'est ça? Non, d'Aubervilliers, toi.
D'Aubervilliers.
L'oracle d'Aubervilliers,
c'est toi. J'avais prédit l'élimination de l'Allemagne il y a un an. Donc, j'annonce la victoire des Bleus cette année. Allez.
C'est l'oracle d'Aubervilliers.
Je mets le PEL de Boris.
Signe, comment te dire,
je parie le PEL de Boris sur la victoire
mais
de
la France.
Mais on
va mettre la daronne à l'abri grâce à toi. Et on est d'accord. On est d'accord.
On va faire construire au pays, t'inquiète.
Merci Charlotte, merci Émilie, merci Boris.
Merci, c'était
merci
cool.
Merci d'avoir parlé de l'équipe de France.
Merci à vous.
Et de cette Coupe du Monde qu'on attend, qui commence dès demain. Et on a hâte.
Vendredi 7.
C'est ça, exactement. On a hâte que ça commence. Et puis, pour finir sur une bonne note, allez les Bleus.
Allez les Bleus.
Allez les Bleus. Allez les Bleus.
Allez les meufs.
Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par moi-même, Abdallah Swadri. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari. Montage et mixage de Laurie Galigani et à la prise de son, Ashley Tola. Merci à Boris, Émilie Ross et Charlotte Prato d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez aimé cet épisode, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Pensez aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts pour nous donner plein d'amour. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et une fois n'est pas coutume, je termine par un message. Allez les Bleus!